VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui, édition du mercredi 7. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Au Mali, deux militaires et deux civils ont été tués dans des attaques lundi et mardi dans le centre du pays.
En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara maintient le suspense sur son éventuelle candidature à la présidentielle de 2020.
Au Cameroun, l'armée dénonce l'empiètement du territoire national par la Guinée équatoriale.
En Afghanistan, au moins 80 personnes ont été blessées dans l'explosion d'une voiture piégée ce matin à Kaboul, la capitale.
Ici aux États-Unis, visite aujourd'hui du président Donald Trump à Dayton, dans l'Ohio, et à El Paso, au Texas, deux villes endeuillées par des fusillades.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco en ce mercredi 7 août 2019. Pour l'instant, le journal.
Deux militaires maliens et deux civils ont été tués lundi et mardi dans des attaques perpétrées dans le centre du pays. En raison de l'insécurité grandissante, le Comité international de la Croix-Rouge a annoncé hier la suspension de ses activités dans la région de Tombouctou. Le point avec Bagassi Koura.
Dans la région de Koro, lundi, deux camions ont été attaqués à l'aide d'engins explosifs. Un militaire a été tué ainsi que deux civils qui accompagnaient l'armée. Hier mardi, à Zenzana Gare, sur la route entre Ségou et Bla, un gendarme a été tué dans une embuscade. Ces attaques n'ont pas été revendiquées. Elles ont eu lieu peu après la signature d'un accord de cessation des hostilités entre des groupes armés Peul et Dogon dans le centre du pays. Par ailleurs, à cause de l'insécurité, le CICR a annoncé hier la suspension de ses activités à Tombouctou. Il est quasi impossible de continuer à travailler lorsque nous sommes régulièrement l'objet de braquages, a poursuivi le CICR. Jean-Nicolas Marty, le chef de délégation au Mali, précise dans un tweet que cette décision fait suite au vol à main armée d'un véhicule de l'organisation à Tombouctou. En plein jour, en pleine ville, l'emblème de la Croix-Rouge attaqué, c'est selon lui simplement inacceptable.
En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a maintenu le suspense sur son éventuelle candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2020 dans une interview à la télévision d'État mardi à la veille de la fête de l'indépendance. Monsieur Ouattara a déclaré « Je ferai savoir ma décision en 2020. Je vais prendre ma décision au moment opportun et sur la base de ce que mon parti me dira de faire ». Monsieur Ouattara a achevé son deuxième mandat après avoir été élu en 2010, puis réélu en 2015. La Constitution me permet de faire deux autres mandats, a-t-il estimé. La loi fondamentale adoptée en 2016 autorise deux mandats présidentiels, mais cette disposition est sujette à interprétation.
Au Cameroun, l'armée dénonce l'empiètement du territoire national par la Guinée équatoriale qui projette de construire un mur le long de la frontière entre les deux pays. Abdourahmane Dia.
À Kiyossi, ville camerounaise frontalière de la Guinée équatoriale, nous avons constaté que des militaires équato-guinéens ont traversé la rivière et ont posé des jalons du côté camerounais, a expliqué à l'AFP un officier de l'armée sous le couvert de l'anonymat. Fin juillet, le patron des armées camerounaises, le général René-Claude Meka, s'est rendu sur place afin de constater l'empiètement de la frontière et d'observer les velléités expansionnistes du voisin équato-guinéen, selon un reportage diffusé samedi à la radio d'État. Le général a également prévenu que les forces de défense du Cameroun ne permettraient aucune intrusion illicite sur son territoire. Les autorités équato-guinéennes n'ont fait aucun commentaire, mais Malabo estime que le Cameroun laisse de nombreux ressortissants d'Afrique de l'Ouest transiter par son territoire pour entrer illégalement en Guinée équatoriale.
Au Soudan, l'accord de gouvernance sera signé de manière solennelle le 17 août, après plus de 7 mois de manifestations. Le jour même s'ouvrira le procès pour corruption de l'ancien président Omar el-Béchir, renversé en avril après 30 années de pouvoir autoritaire. Éric Manirakiza.
L'accord proclame une série de droits et libertés pour les citoyens qui devront à l'avenir être protégés de toute arrestation arbitraire. La liberté de religion et la liberté d'expression doivent être garanties selon le texte. Chaque citoyen aura le droit d'accéder à l'information et de la diffuser. L'accès à Internet devient un droit à condition de ne pas menacer l'ordre public ou la sécurité. Le droit de manifester, de se syndiquer, de rejoindre ou de créer un parti politique doit également être garanti à l'avenir au Soudan. Le 18 août sera révélée la composition du Conseil souverain, une autorité de transition de 11 membres, dont 6 civils et 5 militaires. Ce conseil devra superviser la mise en place et le travail d'un gouvernement de transition dont le Premier ministre doit être connu le 20 août et la composition du gouvernement suivra une semaine plus tard. Cette instance aura la tâche de gérer une transition de 39 mois, à l'issue de laquelle seront organisées des élections.
Au Mozambique, le président Philippe Nyusi et le chef de la RENAMO, Osufo Momad, ont signé hier un traité de paix définitif. C'était à Maputo, en présence de leaders africains, dont les présidents sud-africains Cyril Ramaphosa et rwandais Paul Kagame. Précision d'Irénée Herman Umbo.
C'est un jour vraiment historique. Cet accord va apporter définitivement la paix à un pays qui a connu suffisamment de souffrances, car il s'agit d'un accord conclu par des Mozambicains et pour des Mozambicains, a commenté l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Mozambique, Mirko Manzoni. Jeudi dernier, Philippe Nyusi et Osufo Momad avaient déjà signé un accord sur la cessation des hostilités. Cet accord qui vient mettre un terme à un long processus de négociation intervient à quelques mois des élections générales prévues le 15 octobre. Sa signature ouvre la voie des élections pacifiques, a souligné le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Il représente un progrès fondamental dans la construction de la paix, s'est félicité le ministère portugais des Affaires étrangères. Il s'agit de la troisième tentative pour conclure une paix définitive entre les deux rivaux. La RENAMO n'avait jamais totalement désarmé et a maintenu une partie de ses combattants dans les montagnes du centre du pays. Elle accusait le gouvernement de ne pas respecter ses engagements.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au moins 80 personnes ont été blessées dans l'explosion d'une voiture piégée ce matin dans l'ouest de Kaboul. Le porte-parole du ministère de l'Intérieur a déclaré sans autre précision qu'un véhicule rempli d'explosifs a explosé à l'entrée du commissariat de police dans cette partie de la capitale. Les violences ont fortement augmenté en juillet, le mois le plus sanglant depuis mai 2017, avec plus de 1500 tués et blessés en Afghanistan selon l'ONU. Elles continuent malgré les pourparlers entre États-Unis et représentants talibans qui mènent actuellement un huitième round de négociations à Doha.
Ici aux États-Unis, le président Donald Trump va se rendre aujourd'hui à Dayton dans l'Ohio, puis à El Paso au Texas, deux villes où 31 personnes ont été tuées dans des fusillades au cours du week-end. Dans une allocution lundi, le président Trump a condamné le racisme, le sectarisme et la suprématie blanche, mais certains, dont le candidat démocrate à la présidence Beto O'Rourke, qui est originaire d'El Paso, se demandent si le président américain sera capable d'éteindre l'incendie qu'il a lui-même contribué à attiser. Selon eux, par ses propos sur l'immigration et les minorités. La conseillère présidentielle Kellyanne Conway a dénoncé pour sa part une politisation des fusillades par l'opposition et assure que M. Trump s'emploie à rassembler le pays.
La Chine, qui contrôle étroitement le cours de sa monnaie, l'a de nouveau laissé chuter aujourd'hui pour la troisième journée consécutive face au dollar. Pourtant, la veille, Washington avait indiqué que le président Trump voulait toujours un accord commercial avec la Chine, mais seulement à condition que ce soit un bon accord. Le yuan a franchi lundi le seuil symbolique des 7 yuans pour un dollar, son niveau le plus bas depuis 11 ans. Pour rappel, M. Trump a menacé la semaine dernière d'étendre des droits de douane supplémentaires à la quasi-totalité des importations en provenance de Chine à compter du 1er septembre.
Caracas a accusé mardi Washington de terrorisme économique et de chercher à provoquer une rupture de dialogue avec l'opposition. Le ministère vénézuélien des Affaires étrangères réagissait à la décision du président Trump d'ordonner un gel total des biens du gouvernement de Nicolas Maduro aux États-Unis. Les forces armées vénézuéliennes, principal soutien du président Maduro, ont pour leur part qualifié cette décision d'aberrante et réaffirmé leur soutien ferme et inébranlable à Maduro.
La grande romancière Toni Morrison, première auteure africaine-américaine à avoir reçu le prix Nobel de littérature, est morte lundi soir à l'âge de 88 ans. Ekiabadou revient sur sa vie.
Toni Morrison est décédé lundi soir dans un hôpital new-yorkais après une courte maladie, d'après un communiqué de ses proches. Descendante d'une famille d'esclaves, Madame Morrison est connue pour avoir donné une visibilité littéraire aux Noirs. Cette brillante universitaire a écrit 11 romans sur une période couvrant 6 décennies, mais également des essais, des livres pour enfants, 2 pièces de théâtre et même un livret d'opéra. Elle a été aussi critique littéraire et éditrice. Toni Morrison a exploré toute l'histoire des Noirs américains depuis leur esclavage jusqu'à leur émancipation. Son roman Beloved, prix Pulitzer 1988, effectue une plongée dans l'univers des Noirs américains au 19e siècle. Toni Morrison sera la première femme noire lauréate du prix Nobel de littérature en 1993. Son 11e et dernier roman, God Help the Child, raconte l'histoire d'un enfant repoussé dès sa naissance par sa mère. L'enfant noir devenu adulte fera de la couleur de sa peau sa force, écrit Toni Morrison dans ce qui restera son roman le plus lumineux.
Fin de ce journal sur VOA Afrique, vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Côte d'Ivoire veut identifier les moyens de renforcer les opportunités commerciales offertes par la GOA et souhaite tripler ses exportations vers les États-Unis de 1 à 3,5 milliards de dollars d'ici 2025. 18 pays africains sur 39 éligibles ont mis en place une stratégie nationale d'intervention pour profiter de la GOA. Les 21 pays sans stratégie sont donc invités à en élaborer une sans délai. Le forum de la GOA s'est tenu du 4 au 6 août à Abidjan. Au Cameroun, la douane a saisi 60 kg d'or à l'aéroport de Douala. Ils étaient dissimulés dans des colis qu'un agent de la compagnie Ethiopian Airlines s'apprêtait à envoyer en soute pour un vol à destination de la Chine. Leur saisie peut représenter une valeur de près de 1,5 milliard de francs CFA. Terminons cette minute éco par l'Égypte qui a reçu la dernière tranche de 2 milliards de dollars de prêts du FMI. Cette institution estime que l'Égypte a atteint ses principaux objectifs en engageant des réformes économiques. Le Caire a réduit les subventions sur les carburants et a aussi introduit une TVA et une dévaluation de la monnaie, mettant à rude épreuve les budgets des millions d'Égyptiens. Le gouvernement espère que ces changements vont attirer les investisseurs.
Sport à présent avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Cyclisme, étape 4, aujourd'hui du Tour international du Congo.
Oui, cette quatrième étape longue de 120 km va se jouer entre Likasi et Lubumbashi. Hier, le Burkinabé Mathias Sorbo a enlevé la troisième étape courue entre Kolwezi et Likasi, 180 km en 4h49, avec une vitesse moyenne de 37 km/h. Le Rwandais Jean-Robert Rouberoua porte toujours le maillot jaune. Jimmy Muyendo, qui a fini à la quatrième place, reste le meilleur Congolais jusque-là. D'après Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa, cette septième édition a été rallongée de 2 jours et prendra fin ce vendredi dans la capitale congolaise. Un réaménagement qui fait suite à la réinsertion de l'étape du Grand Bandundu, comprise entre Batchongo et Kingé, longue de 108 km.
RDC toujours, mais cette fois-ci en basket, les Léopards se préparent pour le mondial en Chine.
L'équipe masculine congolaise va prendre part à un tournoi d'exhibition du 8 au 11 août à Malaga, en Espagne donc. Cette compétition va permettre aux Léopards de se frotter au Venezuela, aux Philippines et à l'hôte espagnol. Après ce tournoi amical, la Fédération congolaise de basketball va organiser la Coupe du Congo du 20 au 31 août. Un tournoi qui entre dans le cadre des préparatifs de la Coupe du Monde. Le mondial se jouera du 31 août au 15 septembre sur le sol chinois.
La société Omnisport de l'armée remporte la Supercoupe de Côte d'Ivoire.
La SO Armée, championne de Côte d'Ivoire, a enlevé la Supercoupe en battant 3-0 le FC San Pedro, vainqueur de la Coupe nationale au Parc des Sports d'Abidjan. L'ancien attaquant international camerounais Patrick Mboma, vainqueur de la CAN en 2000 et 2002, ballon d'or africain 2000 et médaillé d'or au JO de Sydney, a honoré de sa présence ce match en tant qu'invité spécial de la Fédération ivoirienne.
Des nouvelles du marché des transferts?
Oui, Idrissa, le gardien sénégalais Edouard Mendy, 27 ans, quitte Reims pour Rennes pour 4 millions d'euros. Le lion de la Teranga remplacera Thomas Koubek, transféré au club allemand de Augsbourg. Le compatriote à Edouard Sidissar, milieu offensif sénégalais, s'est engagé avec Nîmes Olympique pour 3 saisons contre environ 2 millions d'euros. En Ligue 2, Sidissar a évolué à Châteauroux et Lorient. Et puis le défenseur français d'Arsenal d'Arsenal Laurent Koscielny, 33 ans, s'est engagé avec les Girondins de Bordeaux. Et enfin, le gardien international allemand Kevin Trapp, prêté la saison dernière par le Paris Saint-Germain à Francfort, s'est définitivement engagé avec le club de Bundesliga pour 5 saisons.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Niger, l'opposant Ama Amadou a été plébiscité par son parti pour la présidentielle de 2021. Plébiscité malgré sa déchéance prononcée la semaine dernière par un juge. Ce plébiscite vient de deux ailes du parti qui ont chacune tenu le week-end dernier un congrès au nom de la même formation politique. Précision dans ce reportage de notre correspondant Abdulrazak Idrissa.
C'est fort de la décision de justice qu'il a demandé et qui déchoit Hama Amadou de la présidence du parti que Omar Numa, le président par intérim du mouvement démocratique nigérien, a organisé à Dosso un congrès ordinaire du parti. À la fin, il se fait élire nouveau président du parti et déclare apporter tout son soutien à Hama Amadou en vue de la présidentielle de 2021.
Je réaffirme ici, devant vous tous, je me suis battu pour Hama Amadou. Je me bats encore pour Hama Amadou. Je me battrai pour lui, mais dans le respect de la loi. Parce qu'avant tout, la démocratie, c'est le respect de la loi, dans le respect des textes. Ce n'est pas que je suis contre Hama. Non, j'ai donné ma vie pour lui. Après ça, j'invite l'ensemble des militantes et des militants pour qu'on se retrouve et qu'on essaye de voir comment il faut ramener la cohésion.
Ce soutien, Hama Amadou dit ne pas le comprendre lorsqu'il s'adressait depuis son exil aux autres militants du parti, plus nombreux, qui se sont eux retrouvés à Niamey pour le congrès le même jour que celui de Dosso.
Étrange soutien qui a pour finalité à l'évidence de confier mon destin d'homme politique à celui qui a cherché et obtenu ma déchéance à la tête du parti. Tous mes efforts pour comprendre la logique et la pertinence de ce soutien hors norme bute contre la raison et le bon sens. C'est donc comme si on rassurait la vache en lui disant qu'on la conduit chez le boucher pour son bien. Pourtant, l'adversité elle-même n'a pas encore réussi à me transformer en bête d'abattoir. Aussi pour moi, il n'y a de congrès que celui du lieu choisi démocratiquement par les bases représentatives du parti, c'est-à-dire celle organisée par le Bureau politique national, le seul organe légitime de direction du parti entre deux congrès.
Les organisateurs du congrès de Niamey, eux, n'ont pas formellement désigné un nouveau président pour le parti. Eux aussi annoncent que leur candidat à la présidentielle de 2021 reste Hama Amadou. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Au Burkina Faso, un procès sur une affaire d'exportation illégale de métaux précieux s'ouvre ce matin devant le tribunal de grande instance de Ouagadougou. 12 personnes comparaîtront ainsi que les sociétés IAM Gold et Sakane et la société française Bolloré. Elles sont poursuivies pour, entre autres, des faits de fraude en matière de commercialisation de l'or, dont la quantité pourrait atteindre 6 tonnes. Bakassi Koura a joint à Ouagadougou Ladji Bama, reporter en chef du journal d'investigation Le Reporter.
L'affaire a commencé depuis la fin de l'année 2018, notamment le dernier week-end de l'année 2018. Pendant que les gens étaient dans les fièvres de la fête de fin d'année, l'affaire a commencé à travers une expédition de ce qu'ils ont appelé dans leur jargon du charbon fin, qui est défini comme du résidu de charbon qui est recueilli à la fin du processus d'extraction de l'or. Mais derrière cette déclaration de charbon fin, il se cachait une grosse tache d'or dans ce charbon fin. C'est-à-dire qu'ils ont pris du minerai brut qu'ils ont broyé et ils ont vraiment dopé ce minerai-là en or. Ou alors c'est souvent du charbon actif qui a consommé beaucoup d'or qu'ils ont pris et mis dans le sac et enfermé et puis présenté comme du charbon fin qu'ils ont voulu expédier vers le Canada. Mais en réalité, ce n'était pas du charbon fin. Il y a une expertise que la justice a commandée et qui a mis à nu tout ce gros scandale qui a consisté à faire sortir du Burkina frauduleusement de l'or en grande quantité.
Alors, on parle de combien là?
Officiellement, il est question de 300 kilogrammes d'or dans le Cejabon fin là. Mais des sources qui nous ont alertés au départ font état de près de 6 tonnes d'or qui se trouveraient dans ce fameux charbon fin, vous le dites, parce que ce n'est pas du charbon fin en réalité.
Qui doit comparaître?
Il y a des personnes morales, notamment la société IAM Gold elle-même, plus la société Bolloré, qui est son transitaire en fait. Et en plus de ces deux personnes morales, il y a plusieurs personnes physiques, notamment des agents du ministère des Mines et des agents du ministère des Finances, notamment de la douane, qui sont aussi cités comme des complices de cette grosse fraude d'or là.
Qu'est-ce qu'on reproche au ministre des Mines?
Quand le scandale a été révélé, sans attendre aucune expertise, sans attendre même que la justice ne dise ce qu'il en est, il a commencé à faire un matraquage médiatique pour faire croire qu'il n'y avait pas de problème dans l'expédition en question, qu'il n'y avait pas de fraude et que vraiment il ne fallait pas s'en faire avec notamment ce que la presse, nous autres notamment, avions révélé en son temps. Et aujourd'hui, avec les expertises qui ont démontré que ce qu'il disait n'était pas vrai, l'opinion se dit qu'il avait quelque chose à cacher dans cette affaire. C'est pourquoi il est suspecté. Et l'opinion réclame qu'il puisse être cité à comparaître comme tout le monde. Mais il y a une loi qui fait que le ministre, en tant que membre de gouvernement, ne peut pas être cité au même titre que le citoyen lambda. C'est-à-dire que le parquet général ne peut pas le poursuivre. Mais il n'y a que la Cour de justice qui peut poursuivre le membre du gouvernement. C'est pourquoi son cas est traité en dehors des autres.
Joint à Ouagadougou Ladibama, journaliste d'investigation, il suit ce dossier depuis le début.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
En Côte d'Ivoire, plus de 2000 personnalités, dont des responsables politiques et économiques américains et africains de 39 pays, ont participé à Abidjan au 18e forum AGOA, une réunion visant à renforcer les relations commerciales entre les États-Unis et l'Afrique. Que peut-on retenir de ce dernier forum AGOA? Idriss Fall, adjoint à Abidjan, Gérard Amangwa, directeur général adjoint de l'APEX CI, l'association pour la promotion des exportations de Côte d'Ivoire.
C'est un tournant pour les relations futures entre les États-Unis et l'Afrique au sud du Sahara, puisque le paradigme commence à se décliner. Nous avons déjà la zone de libre-échange, donc l'approche continentale du marché africain. Et puis il y a également le fait que l'Amérique est en train de changer sa vision du partenariat avec la plupart des pays et des régions dans le monde. L'Amérique veut maintenant aller vers le bilatéralisme. Donc ils sont conscients du fait qu'effectivement l'Afrique commence à s'intégrer, du point de vue continental, mais ils préfèrent toujours maintenir leur cap, c'est-à-dire traiter directement avec les pays. Donc, nous sommes à un tournant important.
La Côte d'Ivoire, est-ce qu'elle profite bien de l'AGOA et comment?
La Côte d'Ivoire profite de l'AGOA, c'est trop dire. Hein. On aurait pu profiter énormément, ça c'est sûr, puisque, vous savez, quand on fait l'historique de l'évolution du statut d'éligibilité de notre pays depuis 2000, cette évolution est en temps de ce que nous sommes entrés en 2002, donc on a perdu 2 ans. Nous sommes sortis en 2005, on a perdu 6 ans. Donc, maintenant, nous sommes dans une période où le paradigme a complètement changé et où on se rend compte qu'il faut aller à l'industrialisation pour créer une base industrielle très large afin d'offrir des produits en quantité, mais également en qualité. Donc, on en a profité, si vous voulez, parce qu'on a eu quand même à peu près 200 millions de dollars de 2002 à 2004. Avantage préférentiel, mais après, bon, ça a baissé. Actuellement, nous sommes à 50 et 76 millions de dollars d'avantages préférentiels. On en a profité, mais on peut faire mieux.
En 2017, les échanges entre les États-Unis et l'Afrique, c'était de l'ordre de 100 milliards de dollars. Aujourd'hui, comment expliquer cette baisse?
Les Américains investissent dans certains secteurs clés. Hein. Il y a les mines, le pétrole et l'énergie. Ce sont des investissements productifs, mais à usage interne. Ce n'est pas des investissements pour aller vers l'exportation. Nous, nous souhaitons, pour un partenariat gagnant-gagnant, que ces investissements au-dessus des secteurs porteurs pour nous, notamment l'agro-industrie et puis l'agroalimentaire. C'est pour cela qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons privilégié certains secteurs prioritaires dans le cadre de la stratégie nationale d'exportation. Et sur le marché américain, nous avons également des secteurs prioritaires, notamment la noix de cajou, le manioc qui s'est dérivé, le caoutchouc et puis le coton. Bien sûr, il faut ajouter le miel aussi.
Gérard Amangwa, directeur général adjoint de l'APEX CI, l'Association pour la promotion des exportations de Côte d'Ivoire.
Restez branchés sur VOA Afrique à Abidjan sur 99.0 FM en Côte d'Ivoire.
L'artiste togolais Jimmy Hope est décédé à Paris dans la nuit de dimanche à lundi. A-t-on appris en début de semaine, il était souffrant depuis quelques semaines et avait été évacué en France pour y être soigné. C'est avec émoi que ses compatriotes ont accueilli la nouvelle. Jimmy Hope était à la fois artiste, musicien, peintre et sculpteur. Notre correspondante à Lomé, Kay Lawson, revient sur la carrière de l'artiste.
C'est l'une des dernières prestations de Jimmy Hope, pour ne pas dire la toute dernière. C'était le 14 décembre dernier, lors du lancement de VOA Afrique à Lomé. Cet artiste, surnommé le Johnny Hallyday togolais, pour ses scènes enflammées, vient de rejoindre l'autre rive à l'âge de 62 ans. Pour l'écrivain togolais Kanye Alem, Jimmy Hope est parti trop tôt, malgré ses 45 ans de vie sur scène.
Jimmy est mort assez jeune quand même, parce que 62 ans. C'est un homme accompli quand même qui s'en va. Un homme qui a vécu son art de manière très variée et complexe. Et donc pour moi, c'est le plus beau départ que l'on puisse avoir. Partir au milieu des clameurs, partir au moment où tous les yeux sont encore braqués sur vous. Et l'artiste qui a cette chance-là est mort au fait de la gloire. Hein. Comme on dit chez nous, on ne pleure pas la mort des gens qui ont bien vécu. On célèbre leur passage sur Terre.
Jimmy Hope est décrit par ses proches comme un homme très sensible. Eugène Attigan, promoteur culturel, l'a côtoyé ces deux dernières décennies.
Jimmy Hope, c'est aussi un homme qui est très fragile. Quelqu'un qui est malade, vous annoncez ça à Jimmy, tout de suite vous voyez qu'il est abattu et tout. Et pour évacuer ses émotions, il suffit de sortir la guitare ou bien de prendre ses pinceaux et tout. Et voilà, il exprime à sa façon. Et Jimmy, c'est aussi et avant tout un homme libre et un libre penseur.
L'homme a marqué le Togo d'une encre indélébile. Ses souvenirs resteront à jamais à Surton.
Ah, mais j'ai trop de souvenirs de Jimmy. Alors, à Lille, en France, je tombe sur Jimmy par hasard, mais vraiment par hasard. Et on va dans une galerie d'art à côté où on vendait des tableaux. Et je racontais aux gens que Jimmy était un très grand musicien et lui répondait que non, ici il n'est pas musicien, il est peintre. Et donc le galeriste lui a demandé s'il peignait, est-ce que il a un site internet, on peut voir son truc. Et Jimmy a dit non, moi j'ai... Je peux vous faire le dessin là, sur place. Il était capable de peindre les yeux bandés. Il s'est mis un bandeau, on lui a donné la toile et le galeriste n'en revenait pas.
Quand il sent le public, il veut y aller tout de suite. Il était à la cinquième position, mais j'avais été obligé de l'annoncer à la troisième position. Et voilà, il devait faire deux chansons. Il a fait plus de 45 minutes et c'était du ouf.
Jimmy Hope n'est pas qu'un artiste chanteur. Il est aussi un excellent peintre et sculpteur. On pourra apprécier l'une de ses dernières œuvres, Les Chemins de la Paix, une énorme fresque qui tapisse les murs de l'aéroport international de Lomé. Ou encore le rond-point de la colombe de la paix dans la capitale togolaise. Comme s'il prédisait sa mort, il fredonnait ses terres quelques jours avant son évacuation sur Paris. I feel so sad, I feel like I'm going back home.
Baby, you know I feel so sad. I feel just like going back home.
Kay Lawson, Lomé, VOA Afrique.
I got malaria feeling. You know, baby, I feel just like going back home.
Abdourahman Dia avec vous. Cette semaine, dans Washington Forum, plus de 30 personnes ont été tuées le week-end dernier dans deux fusillades au Texas et dans l'Ohio. Ces drames ont relancé le débat sur les armes à feu aux États-Unis. Les démocrates ont renouvelé leur appel à un renforcement de la législation sur les armes à feu, avec notamment une meilleure vérification des antécédents des acheteurs d'armes. Mais le président et les républicains mettent en cause les jeux vidéo et la propagation des idéologies de la haine via Internet. Nous allons évoquer tout cela avec nos invités ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique. Vous pouvez réagir sur notre page Facebook.
Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Jimmy Cook. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.